Europe 1, Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche, c'est avec Misia que nous partons en balade aujourd'hui. Misia, c'est l'anarchiste du fado, le blues portugais qu'elle a rajeuni, rendu plus pop, plus intelligent et qu'elle fait résonner depuis bientôt 30 ans en France, mais aussi au Japon, en Corée, aux États-Unis ou en Nouvelle-Zélande. Misia sort un nouvel album, elle sera en concert à La Cigale le 20 janvier. 4 ans qu'elle n'avait pas chanté en France, elle nous a donné rendez-vous place des Vosges.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Misia.
Bonjour.
Nous sommes place des Vosges, dans le square qui est au centre de cette place toute carrée. Il y a des fontaines, il y a des adolescents, il y a une statue de Louis XIII.
Des pigeons.
Vous aimez cette place ?
Ah oui, c'est ma place préférée au monde.
C'est vrai, au monde ?
Au monde. Mon psy a beaucoup lutté contre ça. Et un jour, je l'ai envoyé un collage, c'était en banque de la place des Vosges, avec ma bouche, avec un grand sourire collé sur le banc. Je dis, c'est une histoire d'amour pour toujours. Il a eu même un temps que je pensais mes cendres là, après, maintenant je ne suis pas dans ça, mais c'est vraiment un point important dans ma scénographie interne pour moi.
Mais pourquoi le psy luttait contre ça? C'est parce qu'il l'a trouvé trop carré avec ses immeubles de deux étages?
Non, parce qu'il disait que j'avais mon album de photos déjà fait pour la vie, que je devais me surprendre moi-même. Il disait, abîmez pour vous les genoux, allez en Amazonie, mais non, voilà, vous, le chien saucisse, à Place des Vosges, c'est un cliché. Bon, il luttait contre ça. Mais ça fait rien, parce que je continue à adorer cette place. Madame Sévigné, ok.
Oui, c'est vrai qu'ici, c'est presque, pour moi, c'est presque une petite académie française,
oui,
puisqu'on habitait ici. Madame de Sévigné, Victor Hugo,
oui.
Bossuet, Colette habitait ici.
Bossuet aussi.
Bossuet, Georges Simenon, Alphonse Daudet, Jean Dernallier, Pierre Bourdieu, paraît-il aussi.
Également
Annie Girardot, Delphine Seyrig.
Oui, Annie Girardot, je crois que c'était vers la rue des Minimes, comme ça.
La danseuse Isadora Duncan aussi.
Ah oui ?
Oui.
Oh, je l'ai cherchée à la rue de la Pompe. Elle avait une maison aussi à la rue de la Pompe. Et on est dans la rue Touraine, que c'est même à côté, avec Yus Caron, avec la future madame maintenant. Maintenant. Et non, mais j'adore. Et j'adore tout, les choses qui sont imponentes, qui ont une grandeur. Ouais. Mais par exemple, les clochards qui sont autour, ce n'est pas permis, les chiens. Donc j'ai vu des chiens, des clochards, vraiment tout chaotique, faire se glisser sur le gazon ici. J'ai dit, bien, j'ai tout vu. Non, j'adore cette place.
Vous vivez à Paris depuis 15 ans maintenant?
Non.
Non,
non, j'ai été à Paris de 2005 au 2010.
Ah oui, vous n'y habitez plus là maintenant?
Non, j'habite à Lisbonne, oui. Je suis venue vivre à Paris parce qu'au Portugal, tout le monde me disait, ah mais vous vivez à Paris, non? Ah vous êtes ici? Je dis, mais je vis ici, je n'ai jamais vécu à Paris. Et continue à dire ça. Mais oui.
En fait, vous êtes installé à Paris au moment où les Français ont commencé à aller s'installer
exactement,
à Lisbonne.
Oui. Il y a beaucoup de Français.
Oui,
beaucoup,
c'est
vraiment
le 21e arrondissement de Paris, on dit
oui,
Lisbonne.
Oui, et l'autre côté du Tage, on l'appelle la rive gauche. Et là, un quartier à Lisbonne s'appelle Campo de Ourique, et on dit c'est Chandori. On rigole un peu avec ça, oui.
Mais c'est en fait parce que c'est un paradis fiscal pour les retraités,
aussi,
le Portugal.
Je pense, oui.
On peut se faire exonérer d'impôts sur le revenu pendant 10 ans.
Oui, mais pas seulement au Portugal, c'est allé en Espagne aussi.
Est-ce que ça a changé le Portugal, le fait qu'il y ait tant de Français qui s'y installent et aussi d'Européens?
Oui, ça a changé parce que, comme dans toutes les villes, les gens qui vivaient, les vieux couples, les gens très âgés déjà comme ça, les propriétaires, les virent. Oui, voilà. Et donc, le centre de Lisbonne, la zone historique où j'habite, par exemple, il n'y a presque pas de Portugais, là. C'est que des Français.
Mais
et des étrangers, pas seulement des Français.
Et Paris est aussi la troisième ville portugaise
Oui,
du
c'est
monde,
vrai, ça.
Après
c'est
Lisbonne et Porto,
je sais.
Il y a 400 000 Portugais, ici.
Mais là, il y a aussi un problème avec les loyers, aussi. On monte les loyers, et parfois, les gens n'ont pas le pouvoir pour rester. Ne peuvent pas continuer. Bon.
Mais le quartier portugais, c'est plutôt dans le 14e, ici, vous connaissez?
Non, pas beaucoup.
C'est là où étaient les associations portugaises,
les
bistrots portugais.
Oui, non, j'allais pas. Non, je voulais, quand j'étais ici, je voulais être à Paris.
Française.
oui, mais bon, j'ai habité au boulevard Voltaire et à la rue Bonaparte. Le boulevard Voltaire, c'était très intéressant. Il avait un café, que j'ai écrit même un petit texte, que je l'appelais le café des inadaptés, parce qu'il avait la jukebox et tout, et c'était que des inadaptés de la société. Limite clochard, comme ça. Et moi, je regardais, et plein d'animaux dedans, j'adore. Et je disais, mon Dieu, ça va changer ma vie si je rentre ici. Et un jour, je suis entrée, et c'était comme si j'étais entrée dans un endroit, une tribu. Ils m'ont sniffé un peu. Ils ont fait, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? On la mange? Qu'est-ce qu'on fait? Et moi, j'ai dit, s'il vous plaît. Je me suis sentie tellement idiote. Une tartine au beurre, c'est possible? Et la propriétaire, j'ai vu comme un signe d'interrogation sur son front. Elle dit, un moment, madame. Elle est sortie, acheter la tartine, le beurre, elle a laissé le café seul. Et après, j'allais tous les jours, j'ai adoré.
Et vous voyez comme une inadaptée, vous-même?
Bon, j'aime bien les gens qui maintiennent leurs contradictions et toutes ces choses. Et je mettais de la musique, le jukebox, sur le jukebox. Et quand je mettais, à quoi ça sert l'amour, nana, alors là, parce qu'ils fumaient, hein, c'était interdit de fumer, mais ils fumaient. Hein. Et c'était comme une bande sonore pour eux, ils devenaient un peu... J'adorais aller là.
On va partir en balade avec Misia, on se retrouve dans un instant.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes avec Misia, place des Vosges, l'ancienne place royale. Une place carrée bordée d'immeubles de deux étages qui datent de Louis XIII. C'est lui qui l'avait inaugurée, cette place, autrefois. Il y a d'ailleurs toujours sa statue au milieu du square. Bon, c'est pas la statue originale, elle a été détruite pendant la Révolution française,
comme il faut.
Toutes les statues royales.
Mais
il y en a une autre depuis le milieu du XIXe siècle. Là, devant nous, y a l'hôtel où habitait le cardinal de Richelieu, le premier ministre de Louis XIII. Ah oui, c'était la place royale. Hein,
ça, il avait des tournois avant.
Des tournois ici, et tout.
Oui.
Mais les marais. Les duels aussi. Les duels avaient lieu ici.
Bon, je ne savais pas de Richelieu. Ça, c'est, je dois étudier mieux.
Misia, votre nom est indissociable du fado, le fado portugais. Moi, j'appelle ça le blues portugais. Mais vous, comment vous le définissez, le fado?
Bon, c'est chanter le fado, c'est chanter le destin. C'est un peu comme ici la chanson réaliste, un peu. Il y a beaucoup de types de fado. En plus, maintenant, c'est apparu le fado pop avec batterie et tout. Il y a une blague au Portugal qui dit « Ah, les tavernes de fado, beaucoup, elles doivent fermer. » Oui, mais pourquoi? Elles sont si traditionnelles. Parce qu'ils n'ont pas l'espace pour la batterie.
C'est vrai que le fado, au départ, ce sont des instruments à cordes pincées. Et d'ailleurs, il n'y a que la guitare au départ, il n'y a même pas les voix.
Oui, les guitaristes, c'était eux qui commandaient tout. Hein. Ouais. Et beaucoup de fados sont nés parce que les guitaristes ne savaient pas tellement à cette époque, au début, changer les tonalités. Et la chanteuse ou le chanteur devait faire des mélismas pour s'adapter à cette tonalité. Comme ça, ils ont fait des mélodies différentes. C'est une musique qui a beaucoup de personnalité, c'est vrai.
Nous sommes là, il y a devant nous plein de galeries maintenant.
Ma Bourgogne,
c'est un des restaurants.
Je l'appelais ma Vergogne parce que je venais ici, je prenais un calvados. Chaque visite que je faisais à Paris, je venais ici la nuit et je prenais un calvados et je regardais entre les grilles parce que sans les grilles, c'est vraiment la place.
Les grilles du square.
Oui, exactement.
Ma Bourgogne, oui, c'est avec ses bois sur les murs, c'est vraiment un des restaurants typiques. En face, il y a les galeries qui vendent de la verroterie artistique. Aux touristes et aux gogo fortunés.
Oui. Les dimanches, il y a des musiciens ici, c'est très animé. J'ai vu aussi changer le quartier. Maintenant, c'est beaucoup plus de fringues, maisons à thé. C'est devenu un peu monothématique, mais comme au Portugal. Hein, c'est tout des hamburgers boutiques, je ne sais pas. C'est des choses où il y avait avant une taverne portugaise ou un restaurant portugais. Maintenant, c'est boutique design de morue, par exemple.
Vous êtes né pendant la dictature de Salazar.
Oui.
C'était comment?
Bon, ma maison, je vivais avec ma mère et ma grand-mère, qu'elles étaient catalanes de Barcelone. On n'était pas très, disons, immerses dans la société des artistes, en plus. Mais c'était très gris, très triste, ça oui. Ouais. Ça, ah oui, oui, oui.
Ce qui fait que le, là, il y avait le fado à l'époque, mais c'est ce qui lui a collé une étiquette de réactionnaire.
Exactement.
Parce que c'est le fado de, qu'on avait entendu sous Salazar.
Oui.
Alors que c'était bien plus ancien que ça.
Oui,
on l'entendait
oui.
dans les tavernes avec les marins, les prostituées.
Il avait des fados anarchistes, il avait des fados très lumpen, on peut dire. Et après, c'est devenu ce message, il faut être conformiste, il faut accepter être pauvre mais propre. Et heureux, demander peu, des choses comme ça.
Oui, c'était ça la dictature.
Ah oui, c'était... Oui.
Et la saudade, alors, c'est quoi la saudade?
La saudade, c'est la présence d'une absence, voilà. Même d'une chose qu'on désire, même une chose qu'on n'a pas vécue, mais qu'on a imaginée, elle nous manque. C'est poétique.
Vous, le fado, vous l'avez rajeuni, rendu plus pop, plus littéraire. Le fado, avec Misia, ça donne... Quelque chose comme ça, hein. Je me souviens, fogo preso, ça veut dire quoi, fogo preso?
Ah, feu de Bengale.
Quando si attaia in nós fogo preso, o corpo a corpo em que ele vai girando, faz o meu corpo arder no teu aceso e nos calcina, e assim nos vai.
Je dis que vous l'avez rendu plus littéraire, le fado, parce que vous avez été la première à demander à des poètes, à des écrivains de vous écrire des paroles.
Bon, c'est difficile d'être la première à faire quelque chose après Amalia.
Oui, Amalia Rodriguez.
Parce que les meilleurs poètes avaient écrit pour elle, parce qu'elle avait une diction intelligente. On ne peut pas donner ses paroles à n'importe qui. Quand j'ai commencé à chanter le fado d'une façon sérieuse, je voulais... pas les textes de la dictature, disons comme ça. Je voulais que les gens... Et on disait, ah non, mais le fado, ça c'est de droite, ça c'est de la dictature. Et je voulais montrer que non, que ça dépend de ce qu'on dit. Donc j'ai invité José Saramago, Lydia Georges, beaucoup de grands poètes et chanteurs-auteurs du niveau comme par exemple ici Jacques Brel, là, Serge Goudigne, comme ça, des personnes, quelques-unes de gauche, comme ça. Et donc, j'étais dans un non-lieu. Les gens de droite ne m'aimaient pas parce que j'étais un terreur pour eux. J'avais la mini-jupe. Ils me disaient, mais vous avez la mini-jupe? Ah oui, le fado, il a des jambes aussi pour marcher. Et les gens de gauche n'aimaient pas parce que j'étais pas le bon sauvage, disons.
Bah, trop sexy.
Et non, je savais trop. Il faut ne pas savoir pourquoi on souffre, des choses comme ça. Je dis, mais les intellectuels se suicident aussi, vous savez. Ils souffrent. Mais bon, non. Jusqu'à que je peux être orgueilleuse envers moi-même de ça, c'est que j'ai fait un fado pour un public qui n'existait pas. Et donc, j'ai créé ce type de public. Des gens disent, ah, j'aime le fado, mais j'aime aussi Misia, comme si je n'étais pas part du fado au moment-là. Des choses comme ça.
On se retrouve dans un instant avec Misia, dans la rue des Francs-Bourgeois.
Frédéric Taddeï, sur Europe 1.
Nous sommes avec Misia, dans la rue des Francs-Bourgeois, l'une des rues les plus... commerçantes et les plus embouteillées, hein, du centre de Paris, où l'on fait du shopping même le dimanche. C'est aussi là que se situe le Monde Piété, la plus ancienne institution financière de Paris, puisqu'elle pratique le prêt sur gage depuis Louis XIII, je pense, ou Louis XIV.
C'est bien de savoir, quand on est une chanteuse, c'est bien de savoir.
Oui, si on a besoin d'argent, on peut apporter un objet de valeur. Voilà. Des bijoux, de l'argenterie ou un instrument de musique,
de l'or.
Et il vous prête de l'argent. Ah, et puis quand on a l'argent, on peut aller récupérer l'objet.
Ah, c'est bien. Le musée Carnavalet.
Ouais, on est juste devant le musée Carnavalet.
Oui, Madame Sévigné encore.
Vous aimez beaucoup Madame de Sévigné. Hein.
Oui, moi je suis même allée à Grignan voir le château où sa fille était. Moi quand j'aime, je suis un peu... Mais je vais jusqu'à la fin, non?
Obsessionnel.
Exactement, jusqu'à que le thème sec, il n'a plus rien à dire.
Europe 1, 11h30, Frédéric Taddeï.
Mais vous-même, Misia, vous avez connu la pauvreté, la bohème?
Oui, j'en ai connu. Quand j'y vais à Madrid, une époque, la post-movida, non, d'Almodovar et tout ça, je mangeais qu'une fois par jour.
Ah oui?
Ah oui. Je travaillais une fois par semaine, des choses comme
ça. Vous étiez danseuse à l'époque ?
Non, là, je faisais que la chanson. Ouais. Mais au début, oui, j'ai même fait une année de burlesque à Barcelone.
C'est
oui,
le
burlesque.
Striptease ?
Oui, oui. Mais maintenant, on l'appelle le burlesque. C'était ouais. du striptease, voilà. Après la mort de Franco, il fallait se déshabiller.
Oui.
Tout le monde devait se déshabiller, sinon on n'avait pas de travail. Donc. Et moi, que je suis de l'époque des hippies, pour moi, c'était le corps, voilà.
Et c'était agréable de faire du striptease ou ?
Non, parce que moi, mais j'étais trop jeune, je comprenais rien. Je savais même pas pourquoi je plaisais, je comprenais pas, j'avais pas l'intention. Moi, j'étais trop naïve, on peut dire.
Vous appeliez encore Susanna Maria de Aguiar.
Aguiar, oui.
De Aguiar.
Si, Aguiar, oui.
Pourquoi vous avez choisi Misia ?
Parce que Susanna seulement, il y avait beaucoup, sûrement, qui chantent. Susanna Alfonso, c'est le nom de ma mère et le nom espagnol des artistes, non, ça serait un péché, chanter le fado avec un nom de famille espagnol. Ouais. Et Aguiar, mon père, il n'aimait même pas la musique. Donc un jour, j'étais en train de lire la biographie de Misia Cert et j'ai fermé le livre et j'ai dit, je prends ce nom, voilà. Mais je n'avais même pas de disque ni rien.
Pour moi, vous êtes d'abord une voix envoûtante, une voix puissante. Quand vous avez découvert que vous aviez cette voix-là ?
Bon, je chantais beaucoup devant le miroir, comme tous les jeunes petites filles, comme ça. Et je chantais avec ma... je sais pas, quelque chose qui faisait comme le micro. Et un jour, ma mère et ma grand-mère, elles ont écouté, et elles ont dit « Oh, elle le fait en vrai hein !» Alors là, c'était... Oui, oui. Mais par exemple, au Portugal, les gens qui n'aimaient pas ce que je faisais, et encore aujourd'hui, ils disent que je n'ai pas de voix, que je chante faux, que je suis rien, que seulement les étrangers peuvent m'aimer parce qu'ils ne comprennent rien de fado. C'est les puristes, c'est très violent. Hein.
Ouais.
C'est comme maintenant avec cette chanteuse espagnole, Rosalía. Ouais. On dit des choses méchantes sur elle. C'était avec la distance, parce que j'ai jamais...
Mais pour moi, vous avez été au fado un peu ce que El Cordobés a été à la corrida. C'est pareil, en Espagne, El Cordobés, les aficionados le détestaient. Il l'appelait l'anarchiste de la corrida. Il disait que ça ne pouvait plaire qu'aux touristes étrangers.
Piazzolla avec le tango.
Oui, Piazzolla, pareil.
C'est comme ça. mais les gens deviennent vraiment, vraiment méchantes. Hein.
Vous en avez souffert à l'époque ?
Ah oui, j'ai beaucoup pleuré, oui.
Ouais.
Ah oui, j'ai beaucoup pleuré. Oui.
Et sachant qu'en plus, vous avez marché très vite en Espagne, au Japon,
parce que
j'avais
pas de travail.
Aux États-Unis, avant le Portugal.
Oui, oui, mais j'étais la ruine au Portugal et le succès à l'étranger. Je chantais, même aujourd'hui, des chanteurs qui chantent avec tous mes respects dans un petit restaurant qui s'appelle La Maison des Petits Cochons, quelque chose comme ça, disent... Moi, que j'ai chanté à la Philharmonie de Berlin, au Châtelet, comme ça. Celle-là, elle chante rien.
Et pourtant, alors, vous avez intéressé en plus, vous, le monde du classique. William Christie,
parce que ma mère, elle était danseuse de la musique classique espagnole. Ouais. Manuel de Falla, Albéniz, Granados. Donc, j'écoutais beaucoup de musique classique. Et oui...
Cristina Pluhar avec...
Cristina Pluhar, oui. Mmh. Et William Christie, il avait, je pense, carte blanche à la Cité de la Musique. Et il m'a invité à moi. Et Maria de Medeiros et moi, on a fait un spectacle très beau, ça s'appelle Lisboa, très très beau.
Et ça, c'est un peu une revanche.
Ah oui, mais j'en ai beaucoup, hein, mais eux, ils s'en foutent. Non, mais celui-là, c'est qui, William Christie ? Non, mais c'est comme ça, c'est un peu comme Trump, vous savez. On peut leur expliquer, ils ne veulent pas écouter, voilà, ça n'a rien. Hein.
Là, votre nouvel album s'intitule Pura Vida, Banda Sonora.
Ah, mais chaque jour, c'est mieux.
Moi, je le traduis par La vie à l'état pur, bande originale.
C'est, mais très bien.
Et là, alors, vous n'êtes pas contenté, comme vous l'aviez fait au départ, avec le nouveau fado, d'ajouter du violon, de l'accordéon ou du piano. Là, c'est carrément de la guitare électrique.
Ah oui, j'avais besoin de quelque chose qui va vraiment au viscère et que c'était un peu désagréable, parce que cette vida pura, ça fait référence à 2-3 ans d'un grand problème. Que j'ai eu, et on ne sait pas si on a encore, on ne sait jamais, mais un grand problème très organique de santé. Et donc, je voulais quelque chose qui montrait un peu le corps pas bien soi-même, non ? La guitare électrique, pour moi, il y avait déjà des temps que je voulais le faire.
Et c'est fou ce que ça va bien, justement, avec
toutes
le fado,
les deux.
Ça paraît tout à coup une évidence.
Oui,
on se dit,
oui.
Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça plus tôt ?
Ah oui,
on vous écoute tout de suite interpréter L'absence.
Oui, ausência.
Ausência.
Frédéric Taddei sur Europe 1.
Namorai et tu ausência, por tantas noites vazias, que agora pede a prudência que eu te ausente dos meus dias. É que a ausência de ti é uma noite tão escura que eu não sei sair dali sem ir à tua procura. O corpo sente-se ausente na cama onde não se deita, e sabe o melhor presente que a noite não aceita. Meu amor, chegou a hora de o tempo negar o espaço em que o corpo se namora por ausência ou por cansaço. Meu amor, chegou a hora.
C'était Ausencia, interprété par Misia, un extrait de son nouvel album Pura Vida, Banda Sonora. On se retrouve dans un instant dans une boutique que Misia veut nous faire découvrir. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Adam. Nous sommes chez Gavilan, une galerie au 14 rue Malheur, galerie de bijoux dont Aden est le propriétaire, l'animateur, l'esprit,
c'est
l'âme.
Créateur, mais c'est vrai qu'ici c'est une boutique plutôt atelier, oui, et showroom, avec un mélange des bijoux couture des années 80, parce qu'on est fabricant depuis les années 80, de bijoux couture, et avec maintenant plein de curiosités. Donc il y a 200 mètres carrés à visiter et à chiner.
Mais c'est voilà, très gothique, hein. Pour moi,
alors,
c'est gothique.
Il y a un esprit gothique, mais en vérité, c'est couture.
Ouais. Oui, donc, gothique couture.
Tu sais pourquoi gothique? Parce qu'il y a beaucoup de pièces du 19e siècle,
oui,
d'époque.
Il y a beaucoup de croix,
oui,
destinées.
Oui, il y a beaucoup de croix.
Quelques
têtes de mort et vanité, ouais, un peu partout. Oui.
Il y a des.
Mais elles sont cachées, il faut les trouver.
Il y a des boucles d'oreilles, des médailles et des têtes de mort enchevêtrées.
Oui, des choses authentiques.
Tout est authentique.
Exactement.
Ouais. D'époque, 19e siècle jusqu'à maintenant.
Et ça m'étonne pas que Misia soit cliente ici.
J'adore ici.
Il y en a plein, il y a Tim Burton aussi.
Mylène Farmer.
Oui, c'est ça. Ouais.
Tous les gens qui aiment.
Beaucoup
les...
de clients, mais c'est vrai que c'est un petit peu, on va dire, c'est un petit milieu, parce qu'on ne peut pas plaire non plus à tout le monde, vu le style. Hein, voilà.
Mais vous avez fait un duo tous les deux aussi.
Oui,
vous
on
êtes
a
chanteur,
fait un duo, exactement.
Ouais,
je
suis
chanteur.
Et compositeur.
Ouais, voilà, vous avez fait Standing Ovation.
Standing Ovation.
Et vous avez fait des duos aussi avec Rachida, je crois.
Hein. Rachida aussi.
Standing Ovation. Visse à ses lèvres de star. Standing ovation, à l'instar d'un geste.
Et alors en fait, est-ce que c'est le chanteur qui est un hobby, ou est-ce que c'est créer des bijoux
Je pense que c'est un peu à égalité. Maintenant, mon travail de fabricant de bijoux, je crois que et de créateur passe malheureusement en premier.
Malheureusement.
Voilà. Mais oui, malheureusement. Non, mais on a quand même créé ici un super endroit avec une vraie salle de concert.
Ah oui,
où on fait des petits concerts privés.
Si vous n'aviez pas été chanteuse, Misia, vous seriez devenue quoi, vous croyez?
Quand j'étais plus jeune, je pensais trapéziste. J'aimais beaucoup le trapèze, mais photographe. J'aime beaucoup la photo.
Qu'est-ce qui vous plaisait dans le trapèze?
Ce qui me plaisait, c'était pas vraiment le trapèze. C'était le dernier moment quand la trapéziste, elle prend la corde à côté du trapèze et elle descend et elle s'arrête comme ça, avec le petit pied. Zip! Elle s'arrête avant d'arriver
au sol.
Cette contrôle et tout le monde. Ah, Moi, j'adorais ça quand j'étais petite. J'étais tout le temps en train de faire dans les lampes, des choses comme ça. Je demandais à mon père de m'acheter un cirque. Oui, oui, j'aimais le brillant des costumes et tout ça. J'aimais la scène, oui.
Votre père était très riche ou...
Non, mon père, il était un... Comment on dit, mouton noir de, non, on ne dit pas mouton noir.
Si, mouton noir.
Le mouton noir de la famille. Exactement. Il était ingénieur chimique, mais il ne savait pas gagner de l'argent. Au contraire, il n'avait jamais de l'argent. Il faisait des expériences pour inventer un détergent dans la cuisine, comme ça. Et ma mère aussi. C'était deux excentriques, vraiment. Ouais.
Vous êtes deux excentriques, mais qui s'habillent en noir. Hein, Adam
ah, toujours en noir.
Emilia, toujours en noir.
Chaque fois qu'on se rencontre, je dis...
Non, mais des fois, on essaie de mettre un peu de couleur, mais bon...
Moi, je suis venue folle aujourd'hui et j'ai mis ça. Voilà.
Du noir, oui, du noir.
Et
mais
du
comme...
fer, je sais pas comment.
Mais quand même, autour du cou, souvenir un peu de la Movida, peut-être.
Oui, un peu le cabaret. Moi, toujours.
Ouais, c'est rose, là, et c'est des longs poils.
Il y a toujours cabaret en moi, toujours.
Toujours. Vous avez un haut de forme, Dan. Oui. On n'en voit plus beaucoup des hauts de forme. Hein.
Alors ça, c'est des hauts de forme authentiques, hein, sont du 19e siècle. Et bon, si, il y a quand même... Il y a des hauts de forme, mais plutôt dans le steampunk, et qui sont fabriqués en Chine, pour s'amuser pour le carnaval. Ouais. Mais je pense que si on porte quelque chose comme ça, je crois qu'il faut... c'est mieux qu'ils soient authentiques, quoi. Donc ouais. Moi, je préfère celui-là du 19e siècle.
Et voilà. Toutes ces têtes de mort autour de vous, puisqu'il y a beaucoup de bijoux à têtes de mort, hein, on le sait, à la fois parce que c'est la mode, mais aussi parce que c'est gothique, ça ne vous prend pas le...
Ah non, alors...
Pas des cauchemars à la fin.
Non, pas du tout. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut...
Vous en avez même d'ailleurs au doigt
aussi.
Un peu
partout. Mais il faut en fait... Il y a plusieurs types de... C'est pas des vanités maintenant. Donc, il y a des pièces ici qui sont en argent massif, bon, qui sont des bagues classiques têtes de mort. Là, je pense qu'on n'est pas... C'est pas trop important encore. On peut en porter. Après, il y a des objets qui sont vraiment, vraiment, on va dire, un petit peu limites, où il faut accepter de voir, par exemple, un crâne humain, de l'avoir en face de soi ou dans un endroit. Il faut l'adopter. Ouais. Tu vois, il faut qu'on se sente bien avec.
Il
faut lui parler.
C'est comme quand on achète une momie.
À peu près. Mais il faudrait. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas dans l'accumulation non plus. On en prend deux, trois qu'on adopte et qu'on élève tout au long de notre vie. Voilà.
Nous deux, on adore Naples, parce que Naples, voilà, les têtes de mort et tout ça.
Le Brésil, le Mexique aussi, beaucoup, oui. les têtes de mort.
Non, mais il y a un esthétisme quand même aussi, je pense, dans les vanités.
Les vanités, tout simplement, parce que les têtes de mort qu'on glissait dans les tableaux de la Renaissance, oui. Enfin plutôt du siècle d'or hollandais, au milieu des fruits et des légumes, il y avait une tête de mort pour nous rappeler qu'on allait mourir.
C'est ça, le memento mori.
Memento mori, comme on disait en latin. Vous aimez les têtes de mort, vous aussi, Misia?
Oui, 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 j'ai une bonne relation avec elles. Oui, oui, très bien. J'ai un collier qui a d'un effet, c'est plein de croix, mais il a peut-être 20 croix là.
Oui, une vingtaine de croix.
Et têtes de mort, donc. Donc, les puristes du fado sont des rétros.
Est-ce qu'en tant que chanteuse, vous avez des petits objets comme ça pour vous porter chance
Ou
au contraire pour écarter le mauvais sort?
J'ai toujours là.
Dans votre sac?
Ah oui, bon, c'est un petit monde, oui, oui.
Ici, à Dan, vous devez attirer pas mal de collectionneurs.
Oui, on a des collectionneurs, mais c'était surtout des collectionneurs d'objets religieux. Parce que derrière, il y a une galerie d'antiquités, mais religieuses. Et on a des objets en France, par exemple, qu'on trouve ni en Italie, ni au Liban, ni au Brésil, etc. Ils sont très religieux, d'ailleurs. Et donc, c'est intéressant parce que c'est comme un échange. C'est-à-dire qu'ils viennent ici pour trouver des objets français religieux, qu'ils achètent et revendent des fois, souvent, ou collectionnent. Et moi, par contre, je fais la même chose. C'est-à-dire que quand je vais dans ces pays-là, j'achète ce que je ne peux pas trouver en France.
Portugal à Lisbonne.
Donc, en fait, c'est vrai que ça attire vraiment des collectionneurs.
On se retrouve dans un instant, toujours avec Misia et avec Aden.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Misia nous a conduit chez Gavilan, 14 rue Mahler, la boutique d'Aden, où l'on trouve... à la fois des bijoux gothiques, des objets religieux, des vêtements, des tenues de hussards, et puis aussi des chasubles religieuses.
Là, ça fait partie des collections religieuses. Hein. C'est un travail de point de croix, peut-être pas celle-ci, mais toutes
les... Mais les gens les portent dans quelle occasion?
Alors, c'est ça qui est marrant, c'est parce que il faut comprendre que tout le monde ne connaît pas l'utilité de cet objet. Donc en fait, on a des gens un peu fashion qui viennent ici aussi et qui le portent comme un habit...
Pour aller en fête, dans une fête
pour une fête ou pour sortir dans la rue, ça arrive. Bon, pas mal de Chinois, voilà, pour dire la vérité.
Ah bah oui, pour eux, ça ne signifie peut-être rien. Ils n'imaginent pas du tout
que c'est... c'est fashion. Hein. Voilà, c'est le style.
Et alors là, le couloir, le couloir est très très beau.
Voilà un peu notre cabinet de curiosité.
Ah, c'est le cabinet de curiosité.
Voilà. Il n'est pas allumé, mais vous pouvez, en tant qu'intime, rentrer dans cet antre.
Alors, des tableaux religieux.
Des reliquaires.
Des reliquaires. Des crucifix, énormément de crucifix, des colliers de perles.
On ne se rend pas compte, mais c'est vrai qu'il y en a pas mal.
Mais c'est assez gai, hein.
Ben, disons que c'est on va dire joyeux, mais...
Si, moi, je trouve ça assez gai. C'est sur des murs rouges. Et tout au fond, là-bas, alors il y a des grands canapés blancs.
Voilà, c'est un petit peu plus rock'n'roll. C'est le showroom privé où on peut effectivement s'asseoir, se reposer, surtout dans notre atmosphère un peu chargée qu'il y a avant. Voilà. Et très rock. Et alors, tout ce que tu vois autour de toi, c'est pas mal de tableaux de Pierre Terrasson que j'adore, qui a fait des photos extraordinaires depuis les années 80 sur le punk, le gothique, etc. Là, tu vois par exemple une photo d'Irina Ionesco, qui a fait Irina Ionesco. C'était pour le peintre Corneille, qui était c'était son premier mari. Et là, la photo, c'est Natacha, sa femme.
Lysia, vous serez à La Cigale le 20 janvier.
Oui.
Vous jouez souvent des personnages sur scène. Là, ce sera comment ?
J'arrive avec la croix que j'ai sur la couverture du disque.
De Pura Vida ?
Oui, de Pura Vida. Et les musiciens qui viennent de Lisbonne. Ça sera plus court que normalement parce qu'il y a un autre chanteur portugais, Antonio Zambujo, qui fait la première partie.
C'est l'ouverture du festival. Hein.
Oui, au fil des voix. Je suis très... très heureuse d'avoir été invitée. Et
surtout que ça faisait longtemps que vous n'aviez pas chanté en France.
4 années.
4 ans,
oui. 4 ans, oui. J'espère qu'on ne m'a pas oublié. Voilà.
Non, on se languit. J'ai beaucoup d'amis qui m'ont téléphoné, qui viendront te voir le 20.
Voilà. Vous avez un peu le trac quand vous revenez dans un pays chanter
Non, je n'ai pas le trac. J'avais le trac quand je faisais du burlesque. Oui, les striptease. Oui, ça, j'avais un peu le trac. Mais j'ai perdu toute la peur, là. Bon, ouais. Maintenant, on m'arrive des choses parfois terribles sur scène et je suis calme. Non. Voilà.
Qu'est-ce qui vous est arrivé de pire sur scène ?
Bon, par exemple, dans un programme de télévision, il avait un caméraman derrière moi qui passait et vraiment, comme il me filmait comme ça, j'écoute, pam ! Il a tombé, vraiment tombé.
Le caméraman.
Avec la caméra qui était très lourde. Et moi, je suis en train de chanter et je fais un petit frémissement avec la paupière, simplement comme ça, en disant « Oups !» Mais je continue, hein, mais le toit peut tomber que moi, je continue, voilà.
Et tout ça, c'est parce que vous avez...
Je suis très à l'aise sur scène.
Vous avez fait du striptease.
Oui, non,
la meilleure école.
Parce que c'était dans des endroits où c'était un peu bas-fond, c'était un peu sordide même. Et moi, dans la loge, je lisais Kierkegaard. Moi, je suis toujours à côté, un peu à côté. On m'a toujours dit... Elle est un peu étrange. Mais moi, je vivais sous le signe de pourquoi pas.
Si vous lisez Kierkegaard avant de faire du striptease, qu'est-ce que vous lisez avant de chanter du fado
Oh non, là, je lis beaucoup de choses du XVIIe siècle. J'aime beaucoup la manière de parler, tout ça. Je lis beaucoup sur la Deuxième Guerre mondiale. Je suis très, très... Tiens. Oui, beaucoup. D'ailleurs, la rue Mahler, il y avait ici beaucoup de juifs qui ont été déportés, tout ça.
Tout le quartier, c'était le quartier juif.
Oui. Mais je ne suis pas juive, mais je m'intéresse à la culture et juive, je ne sais pas pourquoi. J'ai même fait le test ADN. Rien. J'ai rien. J'ai un ami brésilien, métis. C'est lui et il a 4%. Je dis, mais comment c'est possible? Mais comment toi, tu es né à Porto Alegre et moi, rien. Je suis ibérique et italienne.
Mais je croyais que ça ne se voyait pas qu'on était juifs dans l'ADN, à part si on remonte il y a très très longtemps en Judée.
On voit s'il y a du sang asiatique, du sang, c'est pas juif, parce que la religion, mais du sang
on peut remonter les origines géographiques, retrouver. Voilà. Mais comme il y a eu beaucoup de conversions depuis l'Empire romain.
Mon grand-père espagnol s'appelait Elias Alfonso, voilà. Et ma grand-mère, elle voulait à tout prix qu'on soit juifs, parce qu'ils sont intelligents, elle disait, parce qu'ils sont vraiment intelligents. Hein. Et moi, j'avais cet espoir quand je l'ai fait cet été. Et je dis, mais rien. Et lui, José Eduardo Tine, disait, moi, 4%. J'ai dit, mais tu es né au Brésil. Ben voilà. Oui.
C'est pas ici, dans cette boutique, que vous aviez fait le clip de la chanson d'Hélène ?
Oui, avec l'aide de Aden et d'autres amis, la chorégraphie d'Amir Hossein-Pour, un grand chorégraphe qui a maintenant l'enfant et le sortilège à l'Opéra Garnier. Mais tout très improvisé, la lumière avec des téléphones portables, tout ça, les gestes, a pris une demi-heure avant. C'était tout improvisé et c'est un vidéo clip très bon, je pense qu'il est très bien.
Il est très très beau et la chanson est formidable.
Oui, avec Iggy Pop.
La chanson avec Iggy Pop, oui. La chanson d'Hélène, inspirée par le film Les choses de la vie. Oui. C'était Romy Schneider qui l'avait chanté à l'époque
et puis Michel Piccoli. Oui, exactement.
Et vous l'avez reprise, les paroles sont de Jean-Loup Dabadi. On vous écoute et c'était ici.
Europe 1, 11h30, Frédéric Taddeï.
Ce soir, nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre. Le soleil n'y entrera plus. Tu ne m'aimes plus. Là-haut, un oiseau passe. Comme une dédicace dans le ciel.
Je t'aimais tant, Hélène. Il faut se quitter. Les avions partiront sans nous. Je sais plus t'aimer, Hélène.
J'aimais quand nous vivions comme dans un dessin d'enfant. Tu ne m'aimes plus. Je regarde le soir tomber dans les miroirs.
C'est bien ainsi, Hélène. C'était l'amour sans amitié. Il va falloir changer de mémoire. Je ne te crierai plus, Hélène.
À suivre et j'ai fermé le livre. Le soleil n'y entrera plus. Tu ne m'aimes plus.
C'était la chanson d'Hélène, interprétée par Misia et Iggy Pop. Merci Eden de votre accueil. On va continuer notre balade avec Misia. Nous voilà ressortis avec Misia. Bien, on entre dans la rue des Rosiers. Là, c'était vraiment... le cœur du quartier juif à Paris, hein, où s'est installé à la fin du 19e siècle tous les juifs qui fuyaient les persécutions en Russie, en Roumanie, en Autriche-Hongrie. Il en reste encore quelques commerce typique. Hein. Oui. Il y a beaucoup de magasins de vêtements, mais on peut encore acheter du strudel aux pommes et des harengs fumés. À Porto aussi, il y a un quartier juif important,
oui,
comme à
oui,
Lisbonne.
Oui, très bien, très bien. Je connais mieux celui de Porto, c'est très beau en plus.
Porto, c'est votre ville natale. Oui. C'était la ville d'Henri le Navigateur, le roi du Portugal, qui a lancé les Portugais à la conquête du monde et des océans.
Oui, oui. C'est, les Portugais, quand ils sont désespérés, sont capables de faire des choses incroyables.
Bah, ça a été les premiers à arriver à contourner l'Afrique par le Cap de Bonne-Espérance, oui. Les premiers arrivés en Inde, les premiers arrivés au Japon.
Sauf que les Portugais, ils ne se vantent pas. Ils ne se publicitent pas. Donc, normalement, c'est les Espagnols qui ont aussi fait des choses, mais qui prennent tout. Mais ils se laissent prendre. Donc,
les Espagnols, c'était beaucoup plus tard. Hein.
C'est oui, mais après, avec le traité de Tordesillas, ils se sont partagés le monde, moitié-moitié presque. Ouais. Mais par exemple, en Espagne, aux États-Unis, on a le jour de Cristóbal Colombo, tout ça. C'est toujours... Les Portugais sont plus timides, plus réservés.
Et pourtant, au XIIIe siècle, c'était le Portugal, la première puissance européenne, hein, avec des comptoirs un peu partout.
Oui, c'est vrai.
Vous-même, vous parlez portugais, espagnol, français, anglais. Au fond, vous parlez toutes les langues des grands empires européens coloniaux.
Oui.
On vous comprend presque dans le monde entier aujourd'hui.
Oui, oui, oui. Pas l'autrichien. L'allemand, j'aimerais apprendre pour chanter. Ouais. Oui.
Mais ceux qui ont vraiment des empires coloniaux, c'est les autres.
Hein. Les autres, exactement.
Et il n'y a que le chinois que vous ne parlez pas. Vous n'êtes pas connu en Chine.
Non, non.
Vous ne chantez pas en chinois.
Je pense que j'irai en 2020 en Chine. Mais je parlais un peu de japonais quand je suis allée souvent au Japon. Et bon, à Singapour, à Taïwan, Séoul, tout ça. Mais le Japon, c'est un grand amour dans ma vie.
Vous chantez en napolitain aussi,
oui,
Misia.
Oui, oui, oui.
Vous êtes une vraie européenne.
Ah, j'aime le monde.
Oui, mais
je l'Europe, c'est chez moi.
Oui.
C'est chez moi, vraiment. C'est, par exemple, un jour, je me suis mise à penser que ma chambre serait le Portugal, non ? Je veux dire comme ça. Le salon serait la France, Paris. Il y a beaucoup de choses où je tromperais mon mari, serait l'Italie, par exemple. Je ne sais pas. Une chose comme ça. Il y a un endroit... quand je suis loin, je vais faire là une tournée d'un mois presque en Amérique latine, en juin de 2020. Après 15 jours... loin, je commence à déprimer.
Voilà. Ah oui ?
Ah oui, oui. Oui,
qu'est-ce qui fait la singularité des Européens, à votre avis, vous qui connaissez le monde entier ?
Je pense qu'ils gardent... Maintenant, c'est beaucoup plus polarisé et tout. Mais ils gardent un peu le savoir-faire des choses anciennes et le goût des choses qui prennent du temps pour cuisiner, pour dessiner. Ils ne sont pas dans l'urgence comme... peut-être les Américains, comme ça. Bon, mais il ne faut pas généraliser. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais c'est...
J'ai l'impression que dans l'histoire, les Européens, c'est ceux qui n'auront rien laissé perdre, jamais.
Ils avaient la curiosité de tout. Ils sont là, ils gardent les choses.
Ils gardent, ils ont toujours tout conservé. Les Chinois, par exemple, ils avaient inventé l'horloge bien avant nous, mais ils l'ont oublié.
Hein, oui,
L'empereur n'aimait plus ça, ça ne l'intéressait pas. Il a décidé qu'on n'allait plus faire de bateaux.
Exactement. mais moi, comme je garde tout un peu aussi, moi, j'aime ce côté-là d'avoir l'importance des objets, qu'ils ont une âme aussi, les objets, parce qu'ils nous font penser à des moments, ils nous rapprochent avec des situations. Moi, j'adore les objets.
Juste devant ce qui était le restaurant Goldenberg, où il y avait eu un attentat en 1982. Ça n'est plus le restaurant Goldenberg. Il a été vendu maintenant. C'est un magasin de vêtements, je crois. En tout cas, c'est fermé.
Voilà, c'est ça. Les fringues, les maisons de thé, tout ça. Ça devient... Oui, voilà, c'est comme ça.
Ça a l'air de vous attrister.
Oui. Et là, cette boulangerie, regardez comme elle est belle.
Murciano, oui. Murciano. Ça, c'est la vraie pâtisserie juive.
Ah oui, avec le menorah, là, tout ça. J'avais un cordonnier, celui qui arrange les chaussures, proche du boulevard Voltaire, qu'il était juif, parce que là aussi, boulevard Voltaire, beaucoup de juifs. Et il était vraiment méchant et antipathique, mais j'adorais. Il nettoyait pas les chaussures, il les arrangeait, mais ça au Portugal n'aurait jamais arrivé, parce qu'ils auraient nettoyé. Non, mais il était irrévérent. Moi, j'aime les gens qui vieillissent d'une façon qu'ils sont... qui ne se laisse pas paternaliser. Moi, j'adore ça. Moi, j'adore ça.
C'était son cas, lui.
Ah oui. Ouais, il faut faire attention, parce que sinon, ce qu'on disait, parce qu'il pouvait, il aimait, il avait des choses à régler. Donc, ça faisait écho dans d'autres choses, non? Alors, il était... Oui, mais... Non, mais vous êtes d'où? Il était du Liban. Ouais, ouais.
Vous y chantez souvent, au Liban?
J'ai chanté... 3 ou 4 fois, oui, oui. J'ai chanté à un endroit très beau, Beit Din. C'est un endroit très beau, dans un festival. Et après, j'ai chanté à Byblos et à Beyrouth aussi.
On se dirige avec Misia vers Les Mots à la Bouche, la librairie LGBT du quartier. On se retrouve là-bas juste après les infos.
Frédéric Taddeï sur Europe 1. Europe 1, Frédéric Taddeï.
Nous sommes toujours en balade avec Misia qui sort un nouvel album pour Vida Banda Sonora. Misia qui sera en concert pour la première fois en France depuis 4 ans le 20 janvier à La Cigale. Nous sommes devant la façade bleue électrique des Mots à la Bouche. Les Mots à la Bouche, c'est la librairie LGBT du quartier. On est 6 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie. Vous y venez souvent ?
Oui, c'était un adresse où je venais parce que je trouvais des livres que ça m'intéressait. Mais je n'ai pas bien compris les premières fois que c'était LGBT. J'adorais, je rentrais, voilà. Après,
Alors, LGBT, il faut le rappeler, ça veut dire lesbienne, gay, bisexuel et trans.
Okay, très bien.
Et puis il y a plein d'autres derrière, hein. Oui, il y a queer, oui, il y a cul, oui, etc. etc. Oui. On rentre ?
Oui, on y va.
Allez, rentrons. Ici, on peut trouver le nouveau roman de Constance Debré, Love Me Tender, un écrivain que j'aime beaucoup. Il y a le petit garçon qui voulait être Mary Poppins, d'aller Randero Palomas. Il y a le magazine Jeanne, dont le numéro 2 est consacré aux 45 ans de visibilité lesbienne dans les séries télé. Vous ne l'avez pas lu, celui-là ?
Non.
Il est très bon. Il y a Porcelaine, le catalogue de lingerie pour les hommes.
Ah, c'est bien. Ah, Porcelaine, ouais. C'est joli, le nom.
Et puis, il y a le directeur.
Voilà. Avec une chorégraphie de sourcils.
Bonjour. Vous avez que les sourcils qui dansent. Hein.
Ah oui.
Ouais. Ben, bienvenue.
Merci.
Sébastien Grisé, ouais. Le directeur.
Vous êtes bien renseigné.
Des Mots à la Bouche, mais je suis venu souvent ici.
Oui.
Je suis venu sur Misia, incognito. C'est vrai qu'on trouve des livres qu'on ne trouve pas ailleurs, des DVD aussi.
L'idée, c'est qu'on trouve tout ce qu'il y a ailleurs, plus plein de choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc on a deux fois plus de... Voilà, on a au moins deux fois plus de choses.
Il paraît que vous allez déménager.
On communique dans ce sens-là. On espère qu'on va déménager. Pour déménager, il faut trouver un lieu. Donc on est encore en recherche.
Mais pourquoi partez-vous d'ici
Parce qu'on est chassé d'ici. Parce que la spéculation immobilière fait que notre propriétaire veut louer 3 fois plus cher à quelqu'un qui a plus d'argent que nous.
Eh oui, ben oui, c'est
sûr que vous devez partir.
Ouais, ça c'est malheureusement.
C'est le succès du quartier qui veut ça.
Ouais, ouais, ouais.
Mais il n'y a pas des boutiques historiques, des choses comme ça. Il y en a.
On est un peu. Moi, je pense qu'on est une boutique historique, mais on n'a pas eu le temps de se faire classer et malheureusement. Ah, oui. Sans quoi, ça nous protégerait, mais c'est pas le cas.
Misia, vous qui avez vécu la movida catalane, vous avez vécu l'explosion des sexualités polymorphes, les drag queens. Il y en avait avant, mais j'ai l'impression que les transsexuels ont eu tout à coup comme si elles avaient acquis leur lettre de noblesse avec la movida et avec les films d'Almodovar.
Oui, bien sûr. Ouais. Ma grand-mère, elle était amoureuse d'un transsexuel qui s'appelait le Diamant Blanc. Ma grand-mère, déjà. Hein.
Et ça, c'était au Portugal ?
Non, en Espagne, à Barcelone. Ouais. Tout ça, ma mère et ma grand-mère de Barcelone, à Portugal, je ne sais pas qu'est-ce qui se passait à cette époque, mais elles vivaient dans le parallèle. C'était comme Broadway, le quartier artistique. Et il avait beaucoup, de temps en temps, passé la voiture de la police. Ils allaient tous emprisonnés. Et après, ils sortaient encore. Mais oui, à Barcelone, il y a beaucoup de...
Il y a un très beau roman d'ailleurs de Louis Slack, le chanteur, qui s'est mis au roman sur le tard. Et donc il y a un roman qui s'appelle Les Yeux Fardés, qui est une histoire d'amour entre deux garçons dans le cadre de, ouais. de la résistance ouais. républicaine, mais où le garçon, celui qui reste, finit avec le phare.
Il y a aussi un film, Flor d'Otoño. Flor d'Automne. C'était un anarchiste, parce que la CNT en Espagne, ma grand-mère, elle avait le carton, elle était du syndicat anarchiste, et qui mettait des bombes. Et donc il a été attrapé. Quand il est allé pour le fusiller, il avait un moment, il a fait les lèvres en rouge et on l'a tué. Ben, c'est joli, c'est très beau.
clientèle des Mots à la Bouche, c'est qui alors ?
C'est un peu tout le monde. Le lieu, il est très exposé. Enfin, c'est la librairie, le travail de la librairie a fait que c'est un lieu de passage maintenant avec une des meilleures zones de chalandise de Paris. Donc c'est évidemment toute une clientèle de fidèles qui trouvent, comme vous disiez, des choses qu'ils ne trouvent absolument pas ailleurs. Ensuite, c'est une librairie qui accueille tout le monde. Il y a énormément de touristes dans le quartier. Il y a énormément de Parisiens qui vont faire leurs courses entre Mariage Frères, Uniqlo, etc., qui trouvent la librairie aussi très, très stimulante et très drôle et très pas prétentieuse et fait plein de propositions. Quoi. Les gens sont en général estomaqués par l'abondance du choix et... Voilà, c'est pas à moi de dire la pertinence, mais...
le succès des études de genre et aussi le fait qu'elles aient été beaucoup combattues, pour ceux qui voyaient une théorie nocive, ça a amené de la clientèle
Ça, c'est un débat pour une émission du soir. Ouais, il faut prendre beaucoup de temps pour ça. Je crois qu'il y a effectivement beaucoup de jeunes qui désirent faire de la recherche là-dessus, donc forcément, ils viennent ici. Ensuite, il y a des problèmes d'édition. Il y a beaucoup de textes qui ne sont pas réédités. C'est aussi des réalités économiques. Hein. Les éditeurs se disent que c'est quand même un micro-marché. Et donc, quand ils tentent le truc une fois que c'est épuisé, ils disent bon, on ne réimprime pas. Et tout. Donc ça, c'est un peu compliqué. Mais oui, bien sûr, il y a plein de jeunes talents curieux et qui demandent qu'à travailler là-dessus. Moi, je voulais dire quelque chose. Je suis très content de vous voir parce qu'on a énormément passé vos disques il y a un certain temps. Et moi, à un moment, j'avais des velléités pour apprendre le portugais. Et donc, j'apprenais avec vos chansons. Et donc, je me souviens encore de « Comme une tita sachaya ». C'est mon nom. C'est attrapé.
Ah, comme une tita sachaya. Comme une tita sachaya. Voilà. Que ninguém ergue da mesa. Transborda da dor alheia. Meu coração sem tristeza. Transborda da dor alheia. Meu coração sem tristeza. Ça, c'est Fernando Pessoa. Comme une inutile tasse pleine que personne ne prend dans la table. Voilà. Mon cœur transborde de douleur des autres. Mon cœur sans tristesse, parce que Fernando Pessoa, comme bon Gémeaux, ouais, je comprends aussi. Moi. Bon, il était triste parce qu'il n'arrivait pas à être vraiment triste. Et ça, mais c'est horrible quand on ne peut pas sentir vraiment. On fait comme si. Et on essaye, dans la comédie, de mettre notre vérité, mais faire directement sans paravent, c'est difficile pour quelques personnes. Moi aussi, j'ai des mensonges. À travers des mensonges, on peut dire des vérités.
Et je voulais juste aussi dire que j'ai un souvenir de vous, un concert de Fête de la Musique, je crois, ça devait être à l'hôtel d'Albret.
Ah oui,
et c'était
tout le monde.
Voilà.
Ah oui, bah, il y a un moment que j'ai eu peur. Ah oui, parce que c'était comme une vague qui avançait. Oui.
Bah, c'était fantastique.
Ah, oui.
C'est un des rares bons souvenirs de la Fête de la Musique que j'ai.
Ah, oui, oui.
Il y avait vous et juste après, alors moi j'étais allée pour vous.
Oui.
Et ensuite il y avait Vera Billa qui était
exactement,
une chanteuse.
Exactement, j'adorais. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant ?
Je ne sais pas, mais c'était un des plus beaux
oui,
concerts que j'ai
vu de ma vie. Oui, elle avait cette photo avec une fleur de jarre, je ne sais pas comment on dit. C'est cette fleur blanche, elle était comme ça.
Alice ?
Non. Mais moi, j'aimais beaucoup. C'était la première fois que j'avais vu ça. Que quand je suis allée sur scène, les gens avançaient comme une vague. Ouais, j'ai eu un peu de... Pas peur, mais c'était un peu étonnant.
Et bien, rendez-vous le 20 janvier, La Cigale.
Très bien.
Voilà.
Merci, Sébastien.
Merci.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous suivons toujours Misia, on est rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, l'une des plus anciennes du quartier du Marais. Elle date du règne de Saint-Louis, hein, il y a, je sais pas, 800 ans. Il y avait à l'époque quelques maisons ici et là. Et on arrive rue Vieille du Temple, où là, il y a plein de bistrots, l'Étoile Manquante, au Petit Fer à Cheval, qui est un café du Brésil.
Après, il y a un autre, de la chaise au plafond.
La chaise au plafond... Les philosophes, les petits philosophes.
Oui, les philosophes.
Voilà.
Le fer à cheval.
Une fille à bistrot, vous ?
Ça, c'est mon bistrot fétiche de Paris. C'est à la Belle Hortense.
La Belle Hortense qui est là ?
Oui. Ouais.
Façade bleue également, hein, comme les mots à la bouche.
Oui. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aime. Du vin, du fromage, des livres et des personnes qui se parlent entre elles.
Eh oui, je suis venu souvent ici. Ah, il y a un vrai zingue et puis c'est une vraie librairie.
Oui,
et puis,
voilà.
Puis on y boit du vin, on entre. Voilà, c'est la Belle Hortense. une librairie, cave à vin, tapas, ouverte jusqu'à 2h du matin.
Galerie aussi.
Galerie aussi.
Vente à emporter, voilà. Restaurant.
Des réunions, des écrivains,
des spectacles. Des voilà. Deux expos par mois. Enfin, tout ça dans un petit espace, mais où on peut mettre beaucoup de gens.
Et c'est Brigitte Le Guerne qui le dit.
Voilà, et c'est moi qui le dis et qui le confirme.
Voilà. Et La Belle Hortense, à cause du roman de Jacques Roubaud ?
Absolument. Absolument. Et La Belle Hortense, elle est née en 1997.
Vous parlez de l'établissement, là ?
Bien sûr. Ouais. Le livre, non, bien ouais. sûr. Mais on s'est inspiré, effectivement, du livre de Jacques Roubaud. Oui. Pour donner ce nom à La Belle Hortense. Et Jacques Roubaud, d'ailleurs, est venu il y a quelques mois pour rendre hommage à La Belle Hortense avec ses livres, avec une mini-conférence, avec sa présence magnifique de Jacques Roubaud. C'était vraiment un grand moment.
Et alors, vous avez découvert cet endroit comment, Misia ?
Ouais, je ne me souviens pas quand c'était la première fois que
j'ai Alors moi, je pense que c'était... Moi, la première fois que j'ai rencontré la voix de Misia, c'était à l'hôtel d'Albret pour la fête de la musique. Il y a quelques années.
Exactement,
je ne sais plus exactement, mais autour de 15-16 ans,
peut-être. Oui, c'était mes premières années en France.
Ensuite, un jour, elle a poussé... peu de temps après, quelques mois après, elle a poussé la porte.
Toute seule, non ?
Toute seule comme
ah,
une grande.
Oui.
Et à ce moment-là, je me suis dit, mon Dieu, cette voix extraordinaire qui m'a fait trembler, la voilà en chair et en os. Et puis, elle est venue régulièrement, on a sympathisé.
Avec une amie, je viens avec une amie, ma meilleure amie à Paris, qui c'est une amie d'Istanbul, Yeşim Vesper, qu'elle était correspondante du journal Radical d'Istanbul. Que maintenant n'existe pas. Et on fait toujours ce rituel de venir ici parce que, comme je disais, c'est mon endroit fétiche. Il faut que je passe. Voilà.
Europe 1, Frédéric Taddeï.
Est-ce que les gens qui achètent des livres sont les mêmes que ceux qui boivent du vin et mangent des tapas et vice-versa aussi ?
Ils peuvent grignoter, acheter des livres, boire du vin ou faire les trois choses dans le désordre. Mais en tout cas, oui, ils peuvent faire tout ça.
Et on peut le faire assez tard.
Jusqu'à de 13h à 2h du matin.
Ouais. Au Portugal, ça, les endroits ferment tard, comme
non,
en Espagne ?
Non, l'horaire de Portugal n'a rien à voir avec l'horaire de l'Espagne. Parce que les Portugais, nous ne sommes pas des Latins.
Non.
Nous sommes des Atlantiques.
Ouais.
Nous avons on a l'horaire de Londres, ouais. déjà. Et on a été beaucoup influencés par les Anglais, so British, surtout ouais. de la ville d'où je viens, Porto.
Bah oui, il y avait tout le négoce des vins l'Angleterre
des vins
et le Portugal.
Des tissus et tout. On était une colonie des Anglais.
Ouais.
Oui, voilà. Et encore, la famille de mon père, qui c'était une famille d'haute bourgeoisie, ils prennent le thé à 5 heures avec des scones. Et moi, quand j'étais petite, m'habillais avec un kilt.
C'est vrai.
Ah oui, oui. J'arrivais de chez ma mère, parce qu'ils étaient divorcés, avec des couleurs. Et ils étaient très circonspects. Ils disaient, elle semble une gitane. Et en plus, elle sent le tabac à cause de sa grand-mère espagnole. Donc, on m'habillait différente. Je devais être une autre personne. Et un jour, j'arrive avec le kilt chez ma grand-mère et ma mère. Elle m'a dit, mais Susanita, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Ça semble que tu viens d'un orphelinat. Pour l'Espagne, c'était une tristesse. Ça. Oui, oui. J'ai appris à être caméléonique là.
Et c'est sûr que pour les aficionados du fado, de savoir que vous aviez grandi avec un kilt, ça ne devait pas être très bon.
Non. Voilà, c'est vrai.
Enfin, c'est pour ça, ça vous a obligé à inventer le nouveau fado.
Ah non, oui. Moi, et maintenant, après les années qui passent, j'ampute rien, je coupe rien, je reste avec tout. C'est compliqué pour les autres peut-être, mais pour moi, c'est le plus facile et le plus.
Et puis ne rien laisser perdre, hein, l'avez dit.
Non.
C'est plus
rien choisir, non, je prends tout.
Vous l'avez entendu, le nouvel album de Misia, Brigitte ?
Non, pas encore.
Il vient de sortir.
Bah, écoutons,
oui, je vais l'écouter avec grand plaisir, comme à chaque fois.
Vous allez l'écouter tout de suite. Corazón y Hueso, c'est quoi, le cœur et l'os ?
Oui, le cœur et l'os. J'ai comme invité, c'est un thème de l'Argentin Daniel Melingo.
Qu'on entend aussi sur le morceau.
Oui, il est vraiment... Ma managère a toujours dit, vous deux, vous devez faire quelque chose ensemble, vous deux. Et moi, j'avais un peu de peur quand quelqu'un te dit ça, mais je l'ai connu cet été comme ça, et c'était vraiment... il a une symbiose, une chose qui marche très bien. Corazón y Hueso, si.
Europe 1, 11h30, Frédéric Taddeï.
Tengo la ilusión de me está siguiendo. Es la sensación que me está llamando. Quiero controlar este sentimiento. Es pura ansiedad y me va encontrando. Intento parar, pero ya está cerca. Es la tentación que me está acechando. ¿Cuándo voy a huir de este pensamiento? Me vuelvo a quedar corazón y hueso y me entrego otra vez.
Tengo la ilusión que me está siguiendo. Es la sensación que me está llamando. Quiero controlar este sentimiento. Es pura ansiedad y me va encontrando. Intento parar, pero ya está cerca. Es la tentación que me está acechando. Cuando voy a huir de este pensamiento, me vuelvo a quedar corazón y hueso.
C'était Corazon Iweso. J'arrive pas à le présenter.
Non, tu dis très bien.
Non, c'est vrai. Pourquoi les Portugais parlent si facilement les langues étrangères et les Français si difficilement?
Bon, parce que je pense parce que nous on n'a pas eu une industrie de doublage des films.
Oui, vous avez toujours vu les films en langue originale, vous.
Exactement. On est vraiment très. On rigole beaucoup quand on écoute des choses dites en espagnol ou comme on dit en portugais. Des films doublés, on rigole beaucoup, beaucoup, parce que c'est rigolo.
On fait une pause, on se retrouve tout de suite après à la belle Hortense.
Europe 1, Frédéric Taddeï.
Nous sommes au bar de la belle Hortense avec Mizia et Brigitte Le Guerne au 31 rue Vieille du Temple. Qu'est-ce que vous voulez boire, Mizia, parce que puisqu'on est en bar?
Bon, mais maintenant, je suis en train de boire de l'eau parce que
c'est bien, l'eau.
J'ai la voix du matin, non?
Qu'est-ce qu'il faut pour avoir la voix de Mizia? C'est quoi les
organes? Moi, j'aime bien c'est la voix sale. Ouais. Moi, quand il a une petite brèche, je dis, mais laissez. Mes musiciens rigolent parce que quand ils disent, c'est très joli, je dis, je veux pas joli. Non, mais c'est pas joli. Et donc, il rigole avec moi. Attends, tu vas adorer ça parce que c'est moche. Oui. Je veux pas joli, s'il vous plaît. Ne faites pas. Même pour la guitare électrique, ici, la première fois qu'ils m'ont joué, ils voulaient faire beau. J'ai dit, non, mais pour faire beau, il y a déjà la guitare portugaise, que c'est le ciel, la spiritualité, cristalline. Là, c'est vraiment les viscères, la douleur, le désespoir. Il ne faut pas faire beau. Non, je ne veux pas beau, s'il vous plaît. Et les musiciens disaient, elle déteste, elle aime beaucoup quand c'est moche.
Non, mais c'est vrai que le dieu de la guitare électrique, c'est Jimi Hendrix. C'est pas beau.
Non.
C'est déchirant.
Mais il ne faut pas être beau, mais c'est comme les personnes. Non, il faut beau, belle, non, il faut être intéressant. Si c'est beau, c'est bien, mais si c'est pas beau, bon, voilà.
Je me demande, est-ce qu'on peut chanter du fado si on n'a pas connu des peines d'amour déchirantes et aussi des amours extrêmement, terriblement heureuses?
Bon, je pense qu'il faut que quand on chante le fado, ce soit la peau et le corps qui chantent plus fort.
C'est pas le cœur sanguinolent et...
Non, mais il faut que pas les plaies, mais les cicatrices, ça convient. Ouais. Les cicatrices, c'est comme des décorations de la vie, non ? Ouais. J'ai passé ça. Mais il y a des gens très jeunes qui chantent très bien, mais on revient à la même chose, des voix très belles, très épurées. Je ne suis pas en train de critiquer, mais ce n'est pas la Vierge Marie qui chante le fado, c'est Marie-Madeleine. Oui. Elle est tombée, elle s'est levée, c'est ça qu'il faut...
Vous avez beaucoup souffert en amour, Misia, pour pouvoir chanter
J'ai beaucoup souffert, point. En amour, c'était parce que c'était prédestiné. Ma matrice, c'est une matrice de douleur. Ouais. Oui.
C'est ce qui fait en général les bonnes chanteuses de blues, ouais. Les chanteuses de fado.
Et quand on me voit, ça ne semble pas, parce que c'était Gelsomina, Fellini, ça semble, oui, pas un bouton dans la peau, sur la peau, comme ça. Mais il y a une phrase que c'est très bonne en Espagne qui dit « La procession, elle se passe dedans. La procession va por dentro », ça veut dire une chose c'est le dehors, une autre chose c'est le dedans, oui. Mais bon, souffrir, ça veut dire être vivante aussi.
Ouais. Et ce personnage presque iconique, maintenant le mot est un peu galvaudé, mais c'est vrai que la première Misia, quand on l'a vu apparaître, tout le monde l'a mémorisé avec sa frange, un petit côté Louise Brooks, en même temps sexy, à la différence d'Amalia Rodriguez, par exemple, avec les mini-jupes.
Oui. En France, on m'appelait la dame noire du fado.
Oui,
on insistait, tu dois chanter Barbara. Je dis, non, c'est très téléphoné, non.
Et ce personnage, il est né comment, cette apparence, en tout cas?
Mais moi, je n'ai pas pensé, je vais inventer, non. C'était la façon dont je m'habillais à cette époque-là, même si je n'aurais pas chanté, je me serais habillée comme ça. Donc, quand on va sur scène, voilà, j'aime me maquiller, j'aime la mise en scène. Voilà. J'aime pas les choses naturelles, je me méfie de la naturalité. J'aime les choses qui sont un peu, on peut dire, artificielles, élaborées, un peu, qu'il y a là une construction de quelque chose. Ça, le visage lavé, c'est pas mon truc. Mais donc, il faut toujours, il y a une écriture toujours. C'est comme si le visage et tout, c'était comme une page en blanc, tout ça. Après, j'ai vu tout ça, mais à ce moment-là, je m'habillais comme ça. Et au Portugal, c'était pas très étrange. Ils ont dit des choses terribles. Oui.
Merci, Misia, de nous avoir
emmené en balade. Merci à vous, obrigada.
Merci, Brigitte Le Guern, de nous avoir accueillis. À la belle Hortense.
Merci,
on va remercier aussi le mot à la bouche, Sébastien Grisé, la librairie qui est encore pour le moment 6 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie avant de devoir déménager. On remercie Aden chez
Gavilan,
14 rue Malher. Je rappelle que votre album Pura Vida Banda Sonora vient de sortir, que vous serez le 20 janvier en concert à La Cigale.
Festival Au Fil des Voix.
En ouverture du Festival Au Fil des Voix. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche et on se retrouve dimanche prochain à 11h pour une autre balade.
Merci.